Premier service. Du lundi au vendredi, de 12h à 13h, invités, reportages, chroniques et musique.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur JTFM, vous l'avez entendu, Sonore arrive à grands pas, ça commence demain à Cholet, j'en parlerai à la fin de cette émission et après l'étape choletaise, eh bien retour ou continuation du festival des rencontres autour de la radio et de la création, sonore, donc développement du festival à Nantes dans plusieurs lieux, j'y reviendrai à la fin de cette émission. C'est une émission d'ailleurs réalisée par Marjolaine Ray, que je salue, et qui est derrière la vitre. De quoi va-t-on parler dans cette émission ? Eh bien, on va parler d'actualité sociale et politique avec la rédaction de l'hebdomadaire Politis, qui titre sur sa une l'aveuglement d'un homme. Et oui, François Hollande, on verra pourquoi tout à l'heure, avec Thierry Brun, rédacteur-chef adjoint de Politis. Ce sera le premier temps de cette émission. Avec Thierry, on parlera de Jean-Marc Ayrault, de Valls, des Verts, du neuromanif qui se profile là, demain. Et puis, on parlera également de santé au travail. Donc, un menu très dense, très fourni, mais a priori très intéressant pour cette chronique Politis du jour. On écoutera évidemment de la musique dans cette émission, comme à notre habitude. Et puis, l'art contemporain sera au menu de ce moment de radio grâce au rendez-vous mensuel avec MPVIT. MPVIT est une structure dédiée à la promotion de l'art contemporain et des artistes contemporains. Et Sandra Doublet de MPVIT va nous parler d'une exposition à l'espace Short. L'espace Short, c'est dans le quartier de Chantenay, à Nantes. Une exposition signée Nicolas Millet jusqu'à mi-avril. Cette exposition, d'ailleurs, Nicolas Millet s'exposera ailleurs. Il en sera question également dans cette chronique ailleurs à Nantes. Et puis on retrouve sans tarder Thierry Brun, rédacteur-chef adjoint de Politis. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Pascal.
Tu m'entends bien ?
Oui, très bien.
C'est parfait. L'aveuglement, alors c'est l'aveuglement d'un homme, un aveuglement coupable, si je reprends le titre de l'édito de Denis Seffer, de Politis, l'aveuglement d'un homme dont l'imaginaire politique ressemble parfois à celui d'une calculette, ça c'est oui. Denis Seffer qui le dit. Il nous dit aussi, Denis Seffer, qu'en nommant Manuel Valls à Matignon, François Hollande n'a finalement fait que prendre acte de la victoire de la droite et de la poussée du Front National aux élections municipales. Et Denis Seffer, ironiquement, dit et poursuit, il ne pouvait tout de même pas nommer Jean-François Copé. Fin de citation. Évidemment, j'imagine que la nomination de l'ex-ministre de l'Intérieur à Matignon, ça vous plaît guère à Politis, Thierry.
Oui, d'autant que on peut s'apercevoir aussi que dans le gouvernement dit resserré qui a été présenté hier, que l'on a affaire, et on voit bien d'ailleurs que c'est très encadré par l'Élysée, que Manuel Valls a devant lui quasiment le Conseil national du Parti socialiste dans sa version hollandaise. Donc c'est quand même une chose qui est un peu étrange dans cette période où les citoyens se sont manifestés, parce que comme le dit d'ailleurs Denis dans son éditorial l'aveuglement coupable, c'est que le seul événement qui comptait dans ces élections, c'est l'abstention massive de l'électorat de gauche. Et là, on a affaire à un petit rassemblement autour du Parti socialiste et entre amis et pour répondre à des attentes très très fortes au niveau d'ailleurs qui vont se poser très très rapidement au niveau européen. C'est un peu court, quoi. Donc la nomination de Manuel Valls. Effectivement, bon, c'est perçu comme une sorte d'agression pour l'électorat de gauche qui s'est même pas déplacé municipal. municipales. Et, alors, les prochaines élections européennes vont être encore pires,
semble-t-il. Et Hollande qui déclare le soir de l'élection hein, qu'il n'oubliait pas ceux qui lui ont fait confiance et qui l'ont élu. On comprend mal la cohérence du propos, le choix de Valls et puis ce propos-là là, que je viens de citer.
Oui, ben, on comprend mal la cohérence, mais enfin, il y en a une, hein, c'est cette préoccupation de François Hollande qui se croit encore secrétaire national du Parti Socialiste et qui se préoccupe plus des courants du Parti Socialiste que de former un gouvernement et qui serait un gouvernement capable de bousculer un peu les lignes et d'adopter un changement de cap. D'ailleurs, c'est le thème de notre dossier de cette semaine. Et un changement de cap avec, qui plus est, des propositions qui avaient été faites soit dans le discours du Bourget ou soit dans le programme au choix de François Hollande lui-même. Dans son programme, il y avait suffisamment de mesures. Il y avait même en premier lieu des mesures qui étaient destinées à revoir même le traité budgétaire européen. Donc il y avait une sorte d'engagement là assez fort, y compris sur des réformes fiscales et qui n'ont pas, pour l'instant, été mises en place, et qu'on n'attendra pas de Manuel Valls qui...
Lui, il va marcher dans les pas de l'Allemagne.
Ce qui ressort, là, d'après ce qu'il a dit hier au JT, à 20h, hein, c'est qu'il y a, vraiment une absence totale de projet, de culture, vraiment, de culture... culte politique vraiment à gauche, c'est assez effarant, c'est assez édifiant, mais c'est quand même le propos est d'une neutralité absolue et d'un vide politique, et on sent tout de suite venir l'alignement autour des décisions qui seront prises à Bruxelles.
Alors, je suis pas d'accord avec toi, Thierry. Il y a un projet, il y a son projet à Manuel Valls, c'est celui de s'installer à l'Élysée en 2017. C'est pas ça qui le motive le plus, puisque, comme le dit, je reviens une nouvelle fois à l'édito de Denis Schaeffer, finalement, il délègue l'autorité à un autre, alors premier problème d'ailleurs, un homme dont les ambitions sont connues et dont, par conséquent, la loyauté n'est pas assurée. Alors, contrairement à ce qui se passait avec Hérault, le projet de Valls, le projet qu'il porte vraiment, c'est d'être président dans 3 ans maintenant.
Ouais, alors ça, c'est pas un projet social, économique, politique. Là, c'est un projet qui n'intéresse qu'une seule personne, sa propre personne.
Tout à fait. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est ému par une ambition tout à fait démesurée, très cadrée, hein, tu le disais, par le PS et par Hollande. Rebsamen, par exemple, il n'en voulait pas du tout au gouvernement. Il lui a été imposé par Hollande. On est d'accord.
Ah oui, bien sûr. Bah oui, c'est pour ça que je dis que c'est un compromis de Conseil national du Parti Socialiste, ce gouvernement. Hein. J'insiste là-dessus, hein, parce que c'est frappant, hein, c'est frappant, hein, le fait que on case les amis, les proches, qu'on ménage les courants les plus importants à gauche du PS, donc en donnant quelques grands ministères, on voit bien que c'est vraiment une vision très très courte de la politique, hein, alors la sortie même des écologistes du gouvernement aussi significatif, quoi. C'est le Parti Socialiste qui prend tout en main,
On va y revenir aux écologistes, mais alors, mécontentement à gauche en général, dans l'opinion publique qui, évidemment, on le comprend assez, ne pige pas trop la cohérence des choses, la gauche du PS se rebelle. D'ailleurs, c'est le titre d'un article signé Pauline Grohl dans ce Politiste de cette semaine. Je rappelle que nous conversons avec Thierry Brun, rédacteur en chef adjoint de Politiste. Il y a au moins une quarantaine de députés qui menacent de ne pas voter la confiance au gouvernement Valls. Ça peut avoir des conséquences.
Dans l'ordre de la déclaration d'intention, mais jusqu'à présent, on les a beaucoup entendus avec sous Jean-Marc Ayrault, et ça a été peu suivi des faits. Alors, c'est un petit peu, on essaye de se montrer, de se rendre visible, c'est un petit peu ce qui se passe avec la gauche UPN. J'en profite d'ailleurs pour préciser une chose, c'est que on a énormément d'articles que vous pouvez lire, qui sont en ligne, qui sont gratuitement mis en ligne sur le site de Politis autour de ce qui se passe, alors ce soit à la gauche UPS ou soit autour aussi de ce qui se passe au sein du Front de Gauche, parce qu'il y a également une actualité très importante qui se déroule et qu'on peut retrouver qui complète l'édition papier de cette semaine. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont produites par Politis et qu'on peut découvrir aussi sur Internet avec les journalistes qui suivent l'actualité politique.
Oui, et de belle qualité d'ailleurs. J'indiquais que vous aviez fait un gros travail sur les municipales également. Hein.
Vous trouverez pas effectivement dans les autres médias sur Internet, etc. Un suivi aussi près de ce qui se passe actuellement au sein de la gauche du PS et au sein du Front de Gauche.
Alors, on parle de Valls, on parle de ce gouvernement, bien sûr, de nouvelles têtes. Il n'y a pas vraiment de changement, le retour de Ségolène. Effectivement, là, c'est assez cocasse, finalement. Et puis, les conséquences de ces municipales, c'est ce nouveau gouvernement. Et puis, les conséquences, et tu le disais, Thierry, c'est qu'au niveau du Front de Gauche, enfin, plus précisément, des relations partie de gauche, Parti communiste français, là, on peut dire que le torchon brûle. À ton avis, on va où là-dessus, vers un divorce politique entre Mélenchon et Pierre Laurent?
Là, le bras de fer a commencé. Donc, les derniers articles qui sont en ligne, je vous lis juste le titre, le Front de Gauche au bord de la rupture. C'est les discussions qui ont lieu actuellement autour de des élections européennes et donc de la constitution des listes des candidats et de la désignation des candidats. Et puis aussi sur le reproche qui est fait par le parti de gauche de l'hégémonie du parti communiste, etc. Alors ça résonne sur l'ensemble de la gauche et puis ça rejoint aussi une crise interne qui a lieu aussi chez les écologistes, hein, parce que bon, alors eux, ils ont constitué leur liste au niveau des élections européennes, mais il s'est posé quand même aussi la question de quoi faire avec Manuel Valls et la suite aussi qui va être donnée au sein des écologistes. Alors c'est aussi un débat qu'on suit, hein, et qu'on peut découvrir pour ceux qui veulent vraiment s'informer sur l'actualité politique.
Consultation gratuite de ces articles. Hein,
voilà, oui. C'est des articles, de nombreux articles qui sont disponibles sur le site de Politis.
Hein. Thierry, je reviens juste sur la bisbille. Hein. On va parler des écologistes juste après, mais entre le parti de gauche et le parti communiste, tout ça vient effectivement de la stratégie pour les municipales où Mélenchon ne voulait pas d'accord avec avec les listes socialistes et où à Paris notamment, eh bien le PCF a fait alliance tout de suite avec les listes socialistes.
Les analyses et les résultats évidemment sont interprétés différemment, mais effectivement c'est la conséquence de certains choix, en particulier sur Paris, ou de constitution effectivement municipale, hein, de listes Parti communiste PS. Et ça n'a pas été ça n'a pas donné des résultats d'ailleurs assez flagrants. Bon, enfin, le Parti communiste estime qu'il s'en sort pas mal, il a quand même perdu beaucoup dans cette affaire-là. Et il faudrait d'ailleurs une analyse assez fine, justement, sur les listes Front de Gauche.
Oui, le Parti communiste perd un tiers des villes de plus de 10 000 habitants, hein, qui était présent. Hein, donc,
alors ils disent qu'ils en gagnent aussi, mais effectivement, le résultat net, c'est quand même assez flagrant. Donc là, c'est afférent aussi du choix qui a été, dans pas mal de cas, de faire des listes communes avec le Parti Socialiste. Et donc, c'est évidemment là la continuité d'ailleurs, hein, de qui pourrait entraîner la rupture au sein du Front de Gauche, hein, de divergence de vues entre les deux grandes parti du front de gauche, hein, disons, hein, non, pas le PC et parti de gauche, hein, qui ont lieu en ce moment, quoi. Hein, c'est vraiment un débat très très vif, assez fort. Donc, comme il y a des conférences de presse sur conférences de presse, là, il y en a eu encore une aujourd'hui avec le Parti communiste.
Oui, avec Pierre Laurent, Michel Soudade y était. Bien sûr,
ça chauffe assez fort. Là.
Évidemment, si vous voulez être au courant, ben, allez sur le site de Politis, www.politis.fr, ou achetez, ou abonnez-vous. Il est important de s'abonner à Politis, qui a besoin d'abonnement pour que cette presse d'opinion, presse libre, puisse continuer. Je pense au Monde Diplo également, qui a bien besoin de soutien, justement, pour qu'on ait une diversité, justement, d'opinion de la presse. Alors, on parle toujours avec Thierry Brun de Politis, des conséquences de la nomination de Manuel Valls, qui s'est construit en opposition aux idées de son parti. Les municipales, alors on en vient aux écologistes. Alors, par exemple, à Grenoble, le printemps grenoblois, là c'est un autre article signé par Patrick Pirot. Alors là, finalement, il y a une liste verte-rouge citoyenne qui était menée par l'écologiste Éric Piolle, qui a montré finalement que l'alternative, ce n'était pas forcément entre le PS et l'UMP, pour faire court. Hein.
Quand il y a ce genre de liste, effectivement, ça c'est très intéressant d'ailleurs sur une perspective de recomposition à gauche, de la gauche aussi, à venir, parce que c'est vrai que l'exemple grenoblois, et je pense qu'il y a d'autres aussi, alors pas forcément des maires élus, mais il y a aussi d'autres listes citoyennes où on voit qui seront présentes dans les conseils municipaux. On voit que cette stratégie paye, et d'ailleurs le PS qui avait, enfin pas le PS, puisqu'il avait été Jérôme Safare, hein, le candidat PS qui avait maintenu sa candidature au deuxième tour, s'est pris finalement sa stratégie a été perdante, hein, mais vraiment très perdante. Hein,
13 points d'écart entre Éric Piolle et sa liste verte rouge citoyenne et Safare, oui.
Ce qui se dessine là, c'est quand même des perspectives intéressantes de projets, hein, de projets dont je pense que ça donnera des idées, hein, d'ailleurs. Hein. Et pour les écologistes aussi, c'est un sujet de réflexion, en débat interne, une réflexion qui a mené, qui s'en sortent bien d'ailleurs, hein, sur les résultats des municipales, hein, puisque dans des cas aussi importants que Paris, ils sont partis de leur côté.
Ils ont fait de bons résultats,
Paris. Le Parti socialiste. Et ils ont fait des bons scores, hein, quand même. Hein.
Ils vont peser, évidemment, dans les exécutifs locaux. On n'a pas le temps, mais on ne pourrait pas développer sur les métropoles, justement, outils qui avaient été concoctés par la majorité actuelle dans la perspective d'un succès municipal et qui vont passer pour grande partie à la droite. C'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être. Mais je voulais qu'on aborde une dimension européenne. Le pacte de compétitivité, Valls va être confronté finalement à son approbation ou non au niveau national et au niveau européen. Ça va être quand même deux échéances à court terme qui vont l'occuper. Thierry, là, ça va pas être facile pour lui déjà.
C'est dans les jours qui viennent, le pacte de responsabilité d'abord, parce que il est un des éléments du programme de stabilité qui doit être présenté à la Commission européenne. Hein, puisque maintenant, c'est le calendrier, les arbitrages sont faits avec la Commission européenne au niveau du budget. Il va être très très vite connu, le contenu même du pacte responsabilité. Et alors, il est déjà question de rediscuter avec la Commission européenne du périmètre de la réduction des déficits budgétaires. Bah, de toute façon, qui n'est pas tenable, hein, puisque bon,
3%,
les déficits, mais les ramener à 3%, c'est même pas faisable. Tant plus que là, récemment, on a appris que c'est largement au-dessus. Au niveau du déficit, donc ça dépasse largement les 4%. Donc c'est pas réalisable. Donc là, il y a effectivement des arbitrages à prendre très très vite. Bon, sans surprise, hein, on va pas vers une mise en cause ou un renversement de la table au niveau européen pour tout simplement dénoncer le traité budgétaire européen et le programme de stabilité, hein. Donc on va dans la continuité aussi, parce que bon, le gouvernement, la plupart des ministres sont les mêmes que sous le gouvernement Hérault.
Le patron de Bercy, c'est Sapin, donc voilà, l'orthodoxie hollandaise.
C'est vraiment un très proche de François Hollande, mais vraiment un très proche, et qui va donc simplement rassurer les marchés financiers. Et donc présenter la chose avec un emballage pour rassurer tout le monde, mais on s'inscrit dans une continuité avec les 50 milliards d'euros d'économies budgétaires à faire malgré tout, parce que il faudra bien quand même les faire, ce qui fait qu'on va vers une situation de super austérité. Donc les annonces sociales, dans un premier temps, très floues d'ailleurs, présentées par François Hollande, et ensuite reprises hier soir par Manuel Valls pour sans doute gauchir un peu le discours, c'est du flan, hein. Ça doit être c'est tellement du flan d'ailleurs que les partenaires sociaux, les organisations syndicales en particulier, oui, les organisations syndicales sont déjà revenues là-dessus en pour expliquer que c'est simplement des baisses de cotisations sociales et c'est tout, quoi. Ça va se traduire par ça.
Thierry, l'Europe, on en parlait il y a quelques secondes. Évidemment, tout le monde n'en veut pas de cette Europe, loin de là. Il y a une Euromanif qui va se dérouler ce 4 avril à Bruxelles, à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu signes un article dans Politis cette semaine à ce sujet-là, au sujet de cette manifestation du 4 avril.
Oui, alors c'est d'ailleurs intéressant d'observer que c'est vraiment la chose dont les médias se préoccupent le moins, c'est les mouvements sociaux, des mouvements sociaux européens, comme ils s'en passent quasiment tous les jours en Espagne ou ailleurs. Et il y en a un, effectivement, demain, lancé par les organisations syndicales européennes, puisque la Confédération européenne des syndicats regroupe les plus grands syndicats européens. Donc on a d'ailleurs un appel qui a été lancé par les syndicats français qui n'apparaît nulle part, donc la CGT, la CFDT, FSU, UNSA, et dans une manifestation européenne qui se déroulera à Bruxelles et qui est quand même son importance. Bon, c'est pas le fait que ce soit le premier mouvement social pendant la période de campagne électorale pour les élections européennes. C'est aussi le fait que c'est pas simplement la dénonciation des plans d'austérité, c'est qu'il présente un plan aussi, un plan européen, quoi. Donc qui fait partie des propositions qui sont qui seront présentées pendant cette manifestation européenne. Et dont personne ne parle, absolument personne, avec quand même une mise en cause des plans d'austérité. Donc personne, ça montre bien une chose, c'est que personne n'a pour l'instant envie de revoir complètement et de donner une perspective européenne progressiste autour des États membres. Il y a un blocage manifeste. Bon, on sait bien que pour l'instant c'est encore les conservateurs qui sont majoritaire au Parlement européen et dans les exécutifs, la plupart des pays européens. Donc peut-être qu'avec les élections européennes, les choses vont bouger, particulièrement d'ailleurs à gauche. Mais on voit bien que tout ça est quand même, c'est incroyable qu'il n'y ait même pas de débat actuellement autour de du projet européen. C'est quand même,
ah oui,
quand même un élément fondamental. Et là, pour l'instant, on n'est qu'à des bagarres d'appareils politiques en France, en particulier pour les places aux élections européennes, et c'est tout.
C'est ça, c'est complètement. Donc je renvoie à l'article que tu signes, Thierry, dans ce Politis de cette semaine. Les salariés veulent une Europe sociale et puis Euromanif, donc ce 4 avril à Bruxelles. On va terminer sur un aspect social également, notre chronique, quelques secondes encore, Thierry. La santé au travail, ça c'est un thème qui t'intéresse particulièrement. Eh bien, elle est en constante aggravation. Ça, c'est un collectif de médecins qui l'affirme.
Oui, effectivement. Alors, c'est les médecins du travail qui ont créé un collectif il y a 20 ans. Alors, c'est un petit groupe, hein, mais qui est reconnu et dans le monde de la médecine du travail, qui est un monde très difficile de s'exprimer, qui s'appelle le collectif des médecins du travail de Bourg-en-Bresse. Voilà. Ce sont des médecins du travail qui écrivent régulièrement, hein, dans des revues spécialisées comme Santé et Travail, et qui publient chaque année un rapport, hein, qui dresse un peu un état des lieux sur, en donnant d'ailleurs des éléments, des situations, des témoignages, etc. Une image très lucide de la situation de la souffrance au travail en France actuellement et de son aggravation.
20e rapport, hein, de ce collectif des médecins de Bourg-en-Bresse, et puis qui dénonce un management très délétère qui a modifié les conditions de travail sur le plan technique et relationnel. Ça induit une perte de sens. Il parle de violence pratiquée pour assurer le management par la peur, c'est des mots très forts, et une atteinte à la santé d'origine professionnel qui est en constante aggravation depuis une quinzaine d'années. Et il pointe également le fait que les médecins du travail qui devraient, dont le rôle est d'être attentif justement à la santé des salariés, eh bien, ils ne disposent pas de moyens et de matériel suffisant. Donc effectivement, partant de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peuvent faire les médecins du travail notamment, hein? C'est la vraie question.
Oui, c'est la vraie question, parce que leur profession fait l'objet d'une réforme sous Sarkozy, et donc ils demandent l'abrogation d'ailleurs d'une loi, hein, qui les met un peu sous tutelle ou qui les empêche d'exercice de la prévention et de la médecine du travail. Donc il y a une urgence pour eux. La première des choses à faire, ce serait donc d'abroger cette fameuse loi de 2011 qui avait réformer la médecine du travail.
Il y a une pétition de pas moins de 1000 médecins, ce qui est rare, qui a été lancée en 2010 et qui a ce succès-là, parce que c'en est un, 1000 médecins. Thierry, merci beaucoup de ce temps passé ensemble à propos de l'actualité politique et sociale et de Politis, hebdomadaire d'utilité publique, j'aime à le dire, qui est un site internet que vous pouvez consulter gratuitement. C'est pas la même chose que la parution papier. Et la une de Politis cette semaine, c'est l'aveuglement, avec une photo de François Hollande. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la rédaction de Politis, elle, n'est pas aveugle. Voilà, il nous offre une autre vision de cette actualité politique et sociale. Merci Thierry.
Ouais, merci Pascal.
À très bientôt. Voilà, Thierry, si tu l'as encore, on va se quitter en musique. Rien que pour toi et puis l'équipe de Politis, une proposition signée Henri Landry, le programmateur musical de JTFM. C'est Amor Bellum Duo. Le titre, c'est la valse des 24 heures. Alors, je pense que notre premier ministre, on l'aura plus de 24 heures. C'est un clin d'œil, voilà, facile peut-être, mais intéressant. C'est un beau morceau en plus. C'est une façon de se quitter tout en musique. À bientôt, Thierry. Vous êtes toujours sur JTFM. Voilà, émission réalisée, je le rappelle, par Marjolaine Ray, qui va nous lancer la musique. C'était la valse des 24 heures signée Amor, bel homme, duo. Voilà une belle valse qui faisait un clin d'œil évidemment au nouveau Premier ministre dont on a parlé, on va pas parler que de ça dans la chronique politique, mais on en a parlé un petit peu. Vous connaissez ou pas Nicolas Millet? Si vous connaissez pas, eh bien écoutez ce qui va suivre, c'est le rendez-vous mensuel avec MP Vite et c'est Sandra que l'on retrouve. Vous êtes toujours sur Jet FM. Bonjour Sandra Doublé.
Bonjour Pascal.
Alors, toujours un plaisir de te retrouver, comme chaque mois, pour cette chronique MP Vite, comme manifestement pas vite. Et MP Vite, c'est une association dédiée à la promotion des artistes contemporains, et du coup des arts contemporains, et des événements liés à ces artistes et à cet art contemporain, à Nantes mais ailleurs. C'est un site internet également, qui est une bonne source d'information pour tout ce qui se passe d'ailleurs sur l'agglomération nantaise, mais au-delà, donc de bonnes informations à y quérir. Et aujourd'hui, on va parler d'un artiste. Encore une fois, je ne le connais pas, mais grâce à toi, cette chronique, je me cultive, donc c'est trop bien, comme dirait mon fils. On va parler d'un artiste qui n'est pas nantais à l'origine, et qui vient exposer à Nantes, à deux reprises d'ailleurs bientôt. Là.
Voilà, donc Nicolas Millet nous présente le complexe à l'espace short, donc depuis le 15 mars dernier. Ça va se passer jusqu'au 13 avril prochain. Et ensuite, on aura une exposition à la galerie Mélanie Rayo, également de Nicolas Millet, qui débute au niveau des dates. J'ai un trou, mais je crois que c'est...
C'est dans la foulée, d'ailleurs, de l'exposition.
À partir du 15 avril.
Voilà, le 17 avril, le vernissage, et le 18 avril, cette exposition qui s'appelle Zvi, exposition du 18 avril jusqu'au 31 mai, donc à la galerie Mélanie Rio, c'est 34 boulevard Guistot à Nantes. Mais là, on va parler donc de cette exposition qui nous intéresse, qui va être le cœur de cette chronique. Ça s'appelle Le Complexe, c'est signé Nicolas Millet. Millet, ça s'écrit M-I-L-H-E. Un peu comme les noms qu'on retrouve dans le sud de la France.
Voilà.
Et alors, j'ai essayé quand même, on travaille à Jet FM, tu sais, et j'ai essayé un petit peu de savoir qui était Nicolas Millet. Difficile, c'est ce que je te disais d'ailleurs avant qu'on enregistre ces quelques mots, cette chronique qui a débuté là. C'est que j'avais du mal finalement à savoir si c'était un sculpteur, un plasticien, c'est quelqu'un qui est assez polymorphe dans son approche.
Oui, voilà, on peut dire qu'il a vraiment une pratique totalement protéiforme. Et parce que ça va justement de la sculpture assez minimale d'un grand mur de béton comme ça qui se prend siège dans l'espace public, où on peut avoir également des animaux empaillés, des installations, des réductions d'architecture. Donc c'est vraiment... assez ouvert en fait au niveau de sa pratique.
Donc il propose une exposition qui a débuté le 15 mars, qui s'appelle Le Complexe. Ça va durer jusqu'au 13 avril prochain. C'est à Short. Alors Short, c'est un espace qui est le boulevard de Chantenay, un espace qui est dédié à l'art contemporain, aux artistes contemporains.
Oui, voilà. Donc ça, c'est un lieu qui s'est ouvert fin décembre 2012. Donc il a bientôt un an et demi d'existence. Donc un tout jeune lieu qui est né en fait dans l'architecture un peu du patrimoine industriel, puisque c'est dans le quartier du Bas-Chantenay qu'il se situe en bord de Loire. Donc c'est un petit espace de 54 mètres carrés et qui est donc un espace assez brut en fait, assez frontal, puisque issu de l'architecture du patrimoine industriel. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est assez particulier, c'est qu'il est attenant à un espace, donc on a le White Cube. Et à côté, on a un petit espace de stockage qui est un ancien blocos qui a servi d'atelier mécanique pendant la guerre. Donc ça donne aussi encore une coloration vraiment pétrie d'histoire, on va dire, pour ce lieu et qui est particulièrement intéressante, notamment pour les artistes, de pouvoir investir l'espace en fonction justement de son histoire aussi, qui est très riche.
Le White Cube, on en parle à chaque fois, mais c'est
oui,
bon
voilà,
de rappeler.
Cube blanc.
C'est le cube blanc, là où sont
l'espace,
accrochées les œuvres, où sont proposées les œuvres.
Voilà, c'est un espace neutre, en fait, qui est là, qui permet de réceptionner les œuvres d'art de façon justement sans a priori, très neutre, en fait, avec les murs blancs uniquement.
Alors, on va en savoir un peu plus sur cette exposition. Le complexe, c'est intitulé d'ailleurs d'exposition. Ça fait référence à quoi? Une dimension psychologique ou alors à ce que tu disais tout à l'heure, que c'est un artiste aux approches protéiformes, diverses. C'est un nom qui résonne de cette approche ou de quelque chose qui serait dans cette exposition particulièrement?
Alors là, en fait, le complexe, ça se rapporte aussi beaucoup à la pratique de Nicolas Millet, qui interroge vraiment beaucoup les symboles d'autorité. C'est un travail qu'on peut peut-être pas forcément définir de politique, mais qui a des connotations qui tournent autour des aspects de la politique, en fait. Et là, l'idée du complexe, c'est initié, en fait, avec l'idée de questionner les limites d'un système, les instruments du pouvoir, en décontextualisant justement ici, par exemple, une architecture. Et en fait, l'artiste, il est parti de cette spécialité très française des présidents de la Ve République qui ont eu le désir de construire des architectures afin de laisser un témoignage de leur pouvoir.
Tu parles d'une pyramide du Louvre, par exemple, quelque chose comme ça.
Tout à fait. Bien sûr. Chaque président a eu sa spécialité et donc cette espèce de complexe de Louis XIV, ce fait du prince, qui laisse place à la démesure par le fait d'un seul homme, et bien voilà, Nicolas Millet va justement détourner cette architecture-là en prenant, lui, l'exemple de la grande bibliothèque de Tolbiac, la bibliothèque François Mitterrand. Mmh.
Donc, Mitterrand, d'ailleurs, il a été assez... il en a fait pas mal, il a laissé pas mal de traces. Hein. Je parlais de la pyramide du Louvre, mais la grande bibliothèque, la très grande bibliothèque d'ailleurs, c'est de son œuvre. Il doit y avoir d'autres choses qui traînent encore, bien sûr.
C'était vraiment une volonté, un peu comme justement quand on voit le carton d'invitation, le carton de vernissage. On a un focus qui est fait, donc ça se passe dans les salons de l'Élysée, et on a la main de François Mitterrand qui se pose sur... la maquette, en fait, de la grande bibliothèque, comme ça, qui est présentée.
Ah, c'est ça,
on a un focus sur la main uniquement, et c'est un peu, comme si c'était justement Dieu et sa progéniture. Il y a tout un lien quand même un peu de sacralité là-dedans, qui est enlevé ici avec cet aspect de sérigraphie et de trame.
Un peu granuleuse, comme ça.
Mmh. Donné avec le carton de vernissage.
Mmh. C'est un symbole d'autorité, donc, de vouloir laisser sa trace pour un président de la République, en l'occurrence.
Ah oui, c'est ça, laisser une idée de pouvoir, et puis toujours avoir son nom derrière, en fait, aussi, qui reste. Mmh. Et là, la maquette du projet initial, justement, a été initiée par l'architecte Dominique Perrault. Et donc, il y a tout un jeu, en fait, ici, avec l'œuvre réelle et l'œuvre un peu fantasmée au départ, puisque Nicolas Millet a joué avec l'idée d'inachèvement qui est très présente dans cette œuvre, puisqu'il va donc présenter une maquette à échelle 1/12 de cette grande bibliothèque. Et il va utiliser du placo, des matériaux plutôt cheap en fait, pour montrer aussi des jeux de construction comme ça, procéder vraiment de cette idée d'inachèvement. Et donc, il va reproduire la maquette et non pas l'édifice existant. Donc, la maquette, au départ, les tours étaient beaucoup plus élancées. Et justement, ici, le problème, c'est qu'on a été dans une espèce d'économie de la construction, puisque faute d'argent, le projet n'a pas vu le jour comme il était à l'état initial. Donc, il y a tout un jeu vraiment un peu caustique, je trouve, aussi d'ironie, d'humour, qu'utilise comme ça... insidieusement Nicolas Millet.
C'est-à-dire que le principe de réalité, le principe économique est venu un petit peu sabrer le fantasme du puissant qui voulait cette trace indélébile, quoique, à l'échelle du temps, il faut savoir si c'est vraiment indélébile.
Donc il y a un vrai jeu comme ça sur cette idée d'inachèvement, ce côté très cheap comme ça, où on détourne une architecture très chic parisienne et voilà, on en fait une sorte de maquette... avec des matériaux de construction très bruts.
Il y a quelque chose d'iconoclaste presque. Hein.
Ah oui, aussi, complètement ici, oui. Mm-hmm. Vraiment un jeu sur l'image. Et on le verra d'ailleurs avec une autre pièce présente, avec deux monochromes qui jouent justement sur ce côté très iconoclaste, présent également dans l'exposition. Et en fait, le lien aussi, il y a beaucoup de jeux d'aller-retour, en fait, entre l'espace qui est présent, l'espace d'exposition et l'œuvre de l'artiste, puisqu'en fait, il a pris vraiment en compte l'environnement de la maquette, puisqu'il a présenté le jardin de la bibliothèque miniature. Il l'a reconstitué en fait avec des plantes de rebut, des plantes de ruines, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et donc, il a utilisé les plantes qui jonchaient le sol aux abords de l'espace short et les a justement amenées dans l'espace d'exposition.
Et intégrées à son œuvre.
Voilà, de jardinière et intégrées à l'œuvre. Donc ici, les plantes en plus sont entretenues comme ça avec un espèce de petit, une balaste de néon, d'aquarium qui permet d'entretenir les plantes tout le temps de l'exposition. Et l'artiste ainsi élargit vraiment sa zone d'intervention. Tu vois, il va à l'extérieur du lieu, il joue aussi avec ce principe d'échelle.
Une sorte d'ironie de faire vivre des mauvaises herbes dans une œuvre d'art finalement.
Voilà, exactement, ah. C'est ça. Et justement, l'équipe de Short me disait que ce qu'on appelle mauvaises herbes, c'est toujours... une idée un peu galvaudée comme ça avec ce terme, puisque au départ, c'est qu'elles contredisent la volonté de l'homme, et en fait, c'est des herbes qui permettent après de toujours recréer un nouveau biotope. Donc au final,
sont
on
de
peut
bonnes
pas
herbes.
Les qualifier de mauvaises herbes.
Des herbes, voilà.
C'est ça. Donc il y a un vrai glissement de sens aussi sur le mot culture. On peut jouer aussi là-dessus. Tu vois, la grande bibliothèque, les livres, ce côté aussi sacré, où on a voulu aussi apporter des arbres, voilà, assez... Des choses un peu qui sont de l'ordre de l'éloge. Et là, on va avec des plantes de rebut, des plantes de ruines, créer une sorte de regard caustique, en fait, sur les rapports entre l'homme et la nature, en fait. Et donc, on a des jeux de domination qui se créent. Il y a une vraie... la séduction des signes extérieurs de la puissance publique qu'on pourrait avoir, justement, avec cette maquette, elle est ici totalement renversée, avec cet aspect cheap, avec ces plantes de ruines. Et donc, quand tu parlais de côté très iconoclaste, on a ça également plus loin dans l'exposition, puisqu'en plus de cette échelle, cette maquette à échelle 1/12, on a également deux monochromes bleus qui sont présentés.
C'est pas du Klein. Hein.
Et voilà, justement. Ah. C'est des bleus qui portent un nom chacun. Donc, ça permet d'avoir totalement une autre interprétation, d'autres niveaux de signification. L'un est un portrait de François Mitterrand et l'autre est un portrait de Jacques Chirac. Et voilà, ce sont des interprétations chromatiques des présidents de la République en fonction des carrières politiques. Et on peut dire en fait que ce sont des peintures post-conceptuelles. Donc il y a tout un jeu, quelque chose vraiment très dense et intéressant là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment là-dessus que l'artiste... parvient avec beaucoup d'humour à rendre des œuvres à la fois accessibles, mais à jouer aussi toujours sur plusieurs niveaux de signification.
Il y a un peu d'irrévérence dans son approche à Nicolas Millet. Il y a, oui, du, il y a du décalage, il y a de l'humour un petit peu, c'est assez
ça,
drôle.
Il y a une sorte de...
Il y a d'irrévérence un petit
de
peu.
De légèreté, oui, je pense aussi là-dedans. Et d'ailleurs, en fait, il cite plusieurs fois Walter Benjamin et il parle de... Il dit que l'art politique... Pour lui, c'est l'aménagement du pessimisme. Parce que c'est vrai qu'art politique, c'est tout de suite un mot quand même très lourd de sens et qui souvent...
oxymorique presque.
Oui, pas mal de choses derrière. Et voilà, c'est toujours très délicat. Et lui, justement, je trouve qu'il renverse ça. Et quand il dit que c'est l'aménagement du pessimisme, ben on a à la fois des œuvres qui ont une lecture géopolitique et qui sont présentes, comme lorsqu'il présente... un pan de mur bétonné comme ça, en plein milieu du quartier de Rennes ou quartier de Belleville. Il joue aussi toujours à décontextualiser comme ça les choses. Donc un mur, un pan de mur avec une meurtrière aussi. Toujours des liens comme ça qui peuvent être faits avec la géopolitique, mais aussi pas seulement, qui peuvent être juste vus pour leur aspect comme ça de forme en fait, cette unité formelle. Et il y a aussi parfois voilà, des œuvres qui jouent un peu de la légèreté et toujours dans l'idée d'être accessible pour le public.
Je crois avoir vu des choses de lui où s'intéresse pas mal aux politiques. D'ailleurs, je me souviens de portraits de Chirac et Mitterrand avec une sorte de patch anti-tabac sur le front.
Oui, voilà, avec une sorte de petite pastille. Oui, ouais. C'est toujours l'idée. Il joue beaucoup avec toutes les images comme ça aussi des politiques, de la consommation. Et il est toujours à... questionner l'image aussi.
Je peut-être de dire qu'on consomme trop de politique, je ne sais pas.
Surtout en ce moment.
En ce moment, ouais.
Mais voilà, c'est vrai qu'il est toujours dans cette idée de détournement, en fait. Ça marche assez bien.
On est toujours avec Sandra Doublé de l'association MPVIT, où l'on parle de Nicolas Millet, un artiste, et je reprends tes termes, protéiforme, qui s'expose depuis le 15 mars jusqu'au 15 avril, c'est ça ?
13 avril,
jusqu'au 13 avril.
Et donc,
à l'espace Short, voilà. À Chantenay. Voilà, un espace d'un peu plus de 50 mètres carrés dédié à l'art contemporain. Et cette exposition s'appelle Le Complexe. Et tu es en train de nous montrer les œuvres de Nicolas Millet au micro, Sandra. Voilà.
Et par rapport à l'espace short, je voulais juste toucher un mot parce que c'est un espace quand même très singulier et qui a une vraie vitalité, une énergie portée par les cinq bénévoles qui la gèrent. Donc c'est Céline Rosinga, Hélène Cheguillaume, Antonin Forel, Frédéric Mèche et Vincent Mauroy. Et au départ, c'était un projet nomade. Il existait il y a 10 ans à l'École des Beaux-Arts de Nantes et il proposait des événements assez ponctuels et festifs. D'ailleurs, 4 des 5 membres ont étudié à l'École des Beaux-Arts, donc il y a toujours un lien qui est assez présent avec cette institution. Et notamment dans la programmation, justement, chaque été, ils font place aux jeunes diplômés à travers une exposition, aux jeunes diplômés de l'École des Beaux-Arts. Et il y a une vraie singularité donc, dans cet espace d'exposition, non seulement aussi déjà par le lieu qui lui-même déjà est très fort au niveau du caractère, puisqu'il est situé voilà, dans cet espace un peu patrimonial de l'industrie. Et on a aussi la particularité que c'est une équipe en fait très fraîche, on va dire, très dynamique, et qui parvient à créer de vrais moments de convivialité. Donc ça, c'est quand même à remarquer, je trouve, dans le paysage de l'art contemporain. Parce qu'ils ont vraiment un tel capital de sympathie que ça donne envie de suivre toutes les expositions qui vont être acheminées comme ça, qu'on va avoir justement toujours pendant une durée d'un mois, un mois et demi, toujours comme une sorte de respiration. Et c'est vraiment une programmation toujours très riche, où on a à la fois des artistes confirmés qui alternent avec la jeune création, toujours avec également des événements ponctuels en parallèle ou en complément des expositions. Donc tout cela concorde à faire vraiment un projet très rythmé, qui est original, et qui joue la carte de la proximité avec le public. Donc ça, c'est à noter.
L'art contemporain, ce n'est pas de la prise de tête, ça peut être de la convivialité, mais surtout des œuvres et des artistes présents à Short. Je ne sais pas si Nicolas Millet, on pourra le croiser pendant cette exposition, mais en tout cas, ses œuvres, oui. Et, alors, revenons d'ailleurs aux œuvres. Tu nous parlais de cette maquette de la très grande bibliothèque. Alors, détournée quelque part, enfin... Il y a quelque chose, on parlait d'irrévérence tout à l'heure, il y a un regard particulier de l'artiste hein, par rapport à cette maquette qu'il construit en matériaux de récupération. Il y met une dimension horticole, finalement paysagiste, oui. Avec des comment t'as appelé ça, des herbes de ruines.
Oui, herbes de rebut, plantes de rebut comme ça.
Donc ça, c'est l'œuvre principale
c'est
de l'exposition.
C'est l'œuvre principale, voilà. Quand on arrive, elle est vraiment au centre de l'espace et on est pratiquement, oui, à échelle d'homme, à hauteur des tours, en fait. Donc c'est vrai que ça habite vraiment l'espace et on sent une vraie circulation, justement. Et il joue aussi beaucoup toujours avec le déplacement voilà, du public, la place qu'on peut avoir. Et c'est nous, justement, qui sommes en train de voir et de créer l'œuvre et d'avoir notre posture aussi face à l'œuvre par les déplacements qu'on fait. Et là, on tourne vraiment autour de cette œuvre. Et voilà, on a tout un aspect, un jeu d'échelle comme ça, cette espèce de maquette agrandie, mais très, très cheap ici, qui joue sur cette image très dorée voilà, de l'architecture des grands politiques.
On a ces deux monochromes, hein ?
Oui.
Un qui figure, entre guillemets, je dis avec mes mots, Chirac et l'autre Mitterrand, c'est bien ça ?
Voilà.
En bleu, qui, voilà, référence à Klein, bien sûr.
Oui, c'est vraiment voilà, une sorte d'interprétation, la chromatique, comme il dit. Et le fait que ce soit... Parce qu'il a fait tous les présidents de la Ve République, donc en monochrome, tous ont été réalisés. Donc là, il en présente deux, et je pense aussi que c'est peut-être en lien après avec... Le moment où la grande bibliothèque a été édifiée, c'est quand Jacques Chirac, c'était sous la cohabitation en 96. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça a été tronqué. Enfin le projet initial de voilà, ces grandes tours qui voilà, ont été comme ça coupées parce que changement aussi politique.
Pourtant, ça reste balèze quand même hein, quand on va sur place.
C'est vrai.
C'est quand même assez...
Pour Tonnier, c'est assez impressionnant. Mais il y a eu toujours beaucoup de problèmes, même pour le jardin. Ça a été vraiment difficile... Plein d'aléas, comme on sait après souvent pour les projets architecturaux. La Dominique Perrault a eu beaucoup de difficultés aussi avec ce fameux jardin où ça prenait pas en fait. Les plantes, c'était compliqué là, ce vrai jardin quand même un peu caché la lumière. Donc là voilà, c'est vrai qu'il y a tout un jeu ici avec ces plantes qui prolifèrent, qu'il a
La nature résiste.
Comme ça, très facile, oui.
La nature résiste à l'homme, oui. Finalement. Celle qui a le dessus à la fin, on le sait. Puis on sait qui
geste,
gagne.
Oui, un geste assez, je ne sais pas comment dire, de quelque chose de, d'assez libre, de venir comme ça dans l'espace d'exposition et de se dire, tiens, je vais prendre les herbes que j'ai trouvées dehors, les gratter, puis je vais les apporter dans l'espace d'exposition et les mettre comme ça au centre de cette architecture qui est quand même... comme une architecture princière au départ, on pense au jardin de Louis XIV ou des choses comme ça.
Un peu prétentieuse même, hein, c'est un peu prétentieux tout ça. Hein. Il y a beaucoup de morgue finalement, à se dire tiens, je vais laisser ma trace dans le temps, alors qu'on sait qu'on ne laissera pas de trace parce que tout sera balayé et tout recommencera.
Ah oui, oui, mais je suis philosophe là. On est content finalement quand on se dit Louis XIV avec tout ce qu'il a fait, il a bien fait.
Voilà.
Mais bon, en effet, c'est quelque chose, ce que disait Nicolas Millet, c'est que c'est totalement... antidémocratique, et chez les anglo-saxons, on n'imagine pas du tout faire quelque chose de cette façon-là. C'est, on est vraiment aussi dans quelque chose un peu de... Encore, la Ve République, ça restait sans doute encore une monarchie. Enfin,
monarchie républicaine, manière, voilà, donc, complètement. Et on est dans la société civile plus puissante de l'autre côté de la Manche, bien sûr. Alors, outre, je reviens à l'exposition Le Complexe de Nicolas Millet, qui est appréciable à Chartres, 23 boulevard de Chantenay à Nantes. Quelles autres œuvres on peut voir de Nicolas Millet?
Ah ben là, comme l'espace est tout petit, 50 mètres carrés,
c'est les deux œuvres que l'on peut voir.
Ce sont, oui. On a l'architecture et donc les deux monochromes également qui sont
d'accord.
Présentés.
Alors Nicolas Millet, on le disait au début de cette conversation, Sandra, bien, sera exposée à partir du 18 avril, ce sera vernissage le 17, ce sera à la galerie Mélanie Rioux, boulevard Guistot, à Nantes pour Zvitzvitz, qui est un autre projet. Mais on va terminer bien sûr avec Nicolas Millet, quelques mots peut-être pour conclure cette chronique, MP Vite.
Eh bien là justement, je trouve que l'artiste a vraiment... réussi cette idée de proximité, un peu comme justement cet espace short où il y a vraiment ce souhait de jouer sur la carte de la convivialité. Et bien là, on sent qu'entre l'artiste et l'équipe, et aussi l'artiste vis-à-vis du public, a donné une vraie générosité et qui permet d'entrer facilement dans son travail et de trouver en même temps toujours beaucoup de symbolique si on le souhaite et de pouvoir chercher après des significations plus intérieur ou plus dense après là-dessus.
Et puis notre regard construit, ce que je disais tout à l'heure, construit l'œuvre elle-même. C'est, chaque regard est un élément de construction, perception donc de construction de cette œuvre. L'artiste est Nicolas Millet. L'exposition s'intitule Le Complexe jusqu'à mi-avril, c'est ça
voilà. À la jusqu'au 13 avril. Jusqu'au 13 et donc avril. L'entrée est libre et l'ouverture est le samedi et dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous.
Voilà, et on peut appeler le 02 40 46 44 52. J'imagine qu'il y a un répondeur, on vous répondra directement pour prendre rendez-vous, justement, c'est ce que tu nous disais. Merci Sandra, on peut aller, évidemment, on doit aller sur le site.
Oui, oui.
Alors, on peut aller sur le site de l'Espace Short, hein, c'est www.espacesort.com, et sur le site d'MP8, mais là, je te laisse le soin de nous dire l'adresse.
Voilà, donc c'est mp8.org, et vous pourrez retrouver donc toutes les actualités des artistes MP8, mais également toutes les actualités, donc des structures culturelles nantaises et en Pays de Loire, et également rennaises, avec aussi, de plus, on peut recevoir la newsletter chaque mois, où vous avez toutes les actualités, avec tous les vernissages à faire dans la région.
Donc restez connectés à l'actualité de l'art contemporain, c'est très facile avec cette newsletter d'MP8 et le site qui est une référence justement et qu'on peut aller consulter à tout moment. Merci beaucoup Sandra Doublé.
Merci à toi Pascal.
On se reverra sans doute pour une prochaine émission trimestrielle puisque rappelons qu'au-delà de cette chronique mensuelle dédiée à l'art contemporain et à son actualité ici en région, va-t-on dire, eh bien, il y a une émission tous les 3 mois avec toi, avec Romain Boulet hein, qui a fondé voilà. MP8 et puis sur des thématiques. Alors, on n'a pas encore décidé précisément ce que ce serait, à moins que tu aies une info.
Donc,
là.
Oui, la dernière était portée sur les ateliers d'artistes et là, exact. La prochaine trimestrielle sera consacrée à la critique d'art avec des critiques invitées.
Donc bientôt au mois d'avril, c'est ça?
Oui, je pense fin avril, début mai.
Très bien. Bon, merci Sandra, au revoir, à bientôt.
Merci Pascal, au revoir.
Voilà l'art contemporain sur JTFM tous les mois et tous les 3 mois, comme indiqué il y a quelques secondes. Cette émission est presque terminée, juste le temps de vous dire que le festival sonore, le festival organisé par JTFM et l'association Histoire d'Onde, eh bien, ça commence demain, ce vendredi 4 avril, du côté du Verre de Vin de Cholet, avec Cécile Liège et une proposition qui s'appelle le Tango du Lobe. Le Tango du Lobe, c'est au Verre de Vin à Cholet. On en parlera évidemment demain également dans une émission de 12h à 13h spécialement dédiée à sonore avec les organisateurs de l'événement et les artistes. Et puis quelquefois, il y a des choses qui se télescopent. Il y a un festival qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Festival Europhonique, musique des mondes d'Europe. C'est un excellent festival concocté pour le côté artistique par Sylvain Giraud, artiste lui-même. Ça va se passer donc le vendredi 11 avril, le samedi 12 avril à la Cité, le Centre des congrès de Nantes, alors avec une belle programmation comme à l'habitude, avec Daniel Waro par exemple, avec sur la grande scène des violons barbares, le grand Barouf, Titi Robin. On se quittera avec Titi Robin qui sera sur la scène également de la Cité des congrès. Ce sera le vendredi à partir de 20h10. Et puis on aura Chrismen et Allen, ce sont des beatboxers brésou, je le dis comme ça, et d'ailleurs qui seront les invités d'un hybride constellation qui sera programmé, une émission musicale présentée par Cécile Arnoux de Trampolino et Henri Landré de JTFM. Ce sera le 10 avril, le jeudi 10 avril à Trampolino, la place à partir de 16h. Et puis Titi Robin, une des têtes d'affiche, je ne sais pas s'il y a vraiment des têtes d'affiche europhonique, enfin un artiste que l'on connaît depuis longtemps. Ce sera donc ce même vendredi. Voilà pour ces annonces. On va se quitter avec donc un titre signé Titi Robin. Ça s'appelle NIM, ça s'écrit N2M. Titi Robin, donc l'un des artistes de cette Europhonique 2014. Merci encore à Marjolaine pour la réalisation de cette émission. À très bientôt, à demain vendredi pour parler de sonore dans le détail. Salut.